Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur Spoonois, monsieur Fédironi.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello. Hello.
C'était comment? Oh, Simuna. plutôt que de faire une nouvelle fois une blague débile sur le fait que le week-end est passé alors qu'on est toujours jeudi soir, qu'on est fatigué, qu'on a envie d'entrer se coucher, je vous propose de sauter immédiatement à notre film du jour.
Oh,
Claude.
Alors ça.
Je ne suis pas une riche veuve.
Un certain Morrison.
I'm still here!
Hugo Hendrix, un playboy un peu sur leur tour. Ruiz, l'implacable et fidèle lieutenant de Morrison. Enfin...
Keeper!
La plupart d'entre eux, et bien d'autres encore, passeront l'arme à gauche.
L'arme à gauche de Claude Sautet avec Lino Ventura, Sylvia Cossina, ressorti en salle mercredi dernier. Dernier, mercredi, j'ai perdu le N. Ça va être compliqué pour tenir jusqu'au bout. Allez, Claude Sautet, on commence par une petite biographie. Qui est ce monsieur et pourquoi est-il si important? Pourquoi est-ce que c'est un si grand nom du cinéma français, Alexis?
C'est un grand nom du cinéma de Claude Sautet parce que dans les années 70, il a plus ou moins révolutionné ce que j'ai envie d'appeler le film romantique à la française, qui n'est jamais véritablement comique, jamais véritablement tragique non plus, qui évolue un peu sur un entre-deux. Et il va donc aborder dans plusieurs films des histoires de couple, des histoires d'amitié, des histoires de trahison, de complicité. C'est vraiment ça, ses motifs les plus importants dans des films dont vous connaissez certainement les titres, Les choses de la vie, Vincent, François, Paul et les autres, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, Claude Sautet, c'est un cinéaste qui a trouvé sa période bénie pendant les années 70. Mais il n'a pas commencé du tout pendant les années 70. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher un peu sur le début de sa carrière, puisque justement, l'arme à gauche se situe pendant ce qu'on pourrait appeler la première phase de la carrière de Claude Sautet. Sautet, il va faire, comme beaucoup de gens de sa génération, l'IDEC, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, qui a disparu en 88 puisqu'il a fusionné avec la FEMIS. Et une fois diplômé, il va à nouveau faire ce que beaucoup de gens de sa génération font, à savoir devenir assistant réalisateur. À l'époque, il faut comprendre, c'est plus trop le cas aujourd'hui, hein, mais à l'époque, pour devenir réalisateur, d'abord, il faut être assistant. Il faut aller assister des cinéastes sur les plateaux, il faut organiser des tournages, il faut vraiment rentrer dans la logistique industrielle du cinéma. Et puis au bout d'un moment, si on a de la chance, on va nous confier un projet en tant que cinéaste et la carrière démarre. C'était le cas pour Georges Lautner, pour Henri Verneuil ou pour Yves Boisset, qui d'ailleurs est assistant réalisateur sur l'arme à gauche de Claude Sautet. Sauf que dans le cas de Sautet, ce démarrage il est un tout petit peu plus chaotique que d'habitude. En 55, il est premier assistant d'un cinéaste qui s'appelle Robert Derry et il doit donc être premier assistant sur son film Bonjour Sourire avec Henri Salvador. Sauf que Derry va lâcher l'affaire avant le tournage. Claude Sautet va reprendre la machine en cours de route et de son propre aveu, livrer un produit de commande dans lequel il n'injecte rien de personnel, il va juste respecter tout ce que son prédécesseur avait décidé, donc lui-même ne le considère pas vraiment comme son premier film, il a juste été là parce qu'il fallait bien que quelqu'un remplace Robert Derry. Et donc après ce premier film, il va faire ce que font peu de cinéastes dans son cas, c'est qu'il va retourner à l'assistana et il va notamment être premier assistant sur Les yeux sans visage de Georges Franju. Et puis sur un film qui s'appelle Le fauve est lâché de Maurice Labraud, il va faire une rencontre qui sera décisive pour le début de sa carrière, qui est celle de Lino Ventura. Lino Ventura s'entend très très mal avec Labraud, à tel point que Labraud va planter le tournage alors que le film n'est pas fini. Donc Claude Sautet, qui est premier assistant, va à nouveau reprendre la main et mener le projet à terme. Et étant devenu ami avec Lino Ventura, il va monter à nouveau un projet, cette fois-ci d'un film totalement réalisé et préparé par Claude Sautet en tant que cinéaste, qui s'appelle Classe to Risk, adapté d'un roman de José Giovanni qui sort en 1960. Sauf que Classe to Risk sort donc la même année que À bout de souffle de Jean-Luc Godard, ce qui fait que évidemment la nouvelle vague débarque. Le cinéma français est instantanément révolutionné. Puis il faut rappeler que les premiers films de la nouvelle vague sont des films assez populaires qui ramènent du monde en salle. Du coup, le film Classe to Risk va se planter très violemment au box-office. Il sera ignoré par la critique, à part par un jeune pigiste qui s'appelle Bertrand Tavernier et qui a eu du nez sur ce coup-ci. Du coup, Claude Sautet, comme son film a foiré, repart faire de la Sistana pendant à nouveau 5 ans. Il va surtout travailler ce coup-ci en Italie au studio de la Cinecittà à Rome. Et donc en 65, à nouveau avec Lino Ventura, il revient pour faire L'arme à gauche, adapté d'un roman américain de Charles Williams. Film qui, roulement de tambour, sera accueilli un peu froidement au moment de sa sortie. Ce qui fait que Claude Sautet va retourner faire de la Sistana réalisation. Je te jure que c'est vrai, j'ai vérifié 3 fois, mais c'est vraiment ça. Et il va notamment travailler quand même sur des projets prestigieux, puisqu'il sera premier assistant de Jacques Deray sur Borsalino et aussi de Jean-Paul Rapneau sur ses premiers films, donc La Vie de Château et Les Mariés de l'an 2. Et puis en 70, enfin, ça
et, Alain Cavalier, et Alain Cavalier
et
aussi.
Alain Cavalier aussi, t'as raison, je l'avais oublié celui-ci. Et donc en 70, ça va se débloquer parce qu'il rencontre un futur grand scénariste et parolier français qui est Jean-Loup Dabadie, qui à l'époque est encore journaliste. Et avec Dabadie, il va écrire l'adaptation d'un bouquin de Paul Guimard qui s'appelle Les choses de la vie. Et donc, à partir de là, c'est le démarrage sur les chapeaux de roue. Les choses de la vie, c'est 3 millions de spectateurs en salle. Sélection officielle à Cannes.
Les choses de la vie,
Louis
c'est
de
un
Luc.
Film
c'est un
c'est,
film
c'est le film qui lance
énorme, qui lance complètement sa carrière, avec en plus un couple de stars restés célèbres, Michel Piccoli, Romy Schneider. Et à partir de là, c'est parti. Mais donc, le démarrage dans la carrière de Sautet, il est très, très long et très compliqué.
Oui, c'est la rencontre avec Romy Schneider, avec qui il va faire 5 films. La question que je voulais me poser, c'est Jean-Loup Dabadie, c'est ce réalisateur qui est bleu. Dabadi, dabada,
wow. Dabadi, dabada. Pourquoi je chante avec toi?
Je sais pas. Parce que surtout, vous l'avez dans la tête pendant 24 heures, la minimum. Jean-Loup Dabadi. Bon, alors, si on en vient à L'arme à gauche, je m'adresse à la personne à gauche de sur cette table.
À la seule véritable arme autour de cette table.
Non.
Je sais pas, je tombe des trucs, moi. Hein. Je sais même plus ce que je dis. Et donc, bien sûr, j'arrive à résister à cette chanson. Donc, tu vois, je suis pas très attentif à ce que je dis parce que je ne veux pas que cette mélodie rentre dans ma tête. Oui, moi, L'arme à gauche, je dois y aller vraiment à reculons, je dois le dire parce que, attention, je vais évidemment pas troller sur Claude Sautet. Le fait est que je suis insensible à tout un pan de son cinéma. Pas tout, loin s'en faut. Et puis, ne pas être sensible à une œuvre ne veut pas dire qu'on ne la considère pas pour sa valeur, pour la manière dont elle s'inscrit dans le cinéma français. Hein. Loin s'en faut, encore une fois. Mais le fait est que, oui, sa chronique de cette France des années 70, où on bouffe dans des brasseries des morceaux de viande avec des sauces gribiches, et puis où on se raconte comme la vie, c'est pas facile, et puis des fois, avec Bobonne, c'est pas top, et puis, un accident. Ça m'emmerde. Mais
t'aimes pas les choses de la vie?
Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me touche peu. Il y a quelque chose qui m'atteint un peu, mais je trouve ça remarquablement écrit, mise en scène, et à plein d'endroits. C'est-à-dire, c'est du très beau cinéma. Mais tu vois, Paul, Vincent et tous les autres, Garçon, enfin voilà. C'est un cinéma avec lequel j'ai très peu d'attache émotionnelle. Et donc forcément, tu me dis L'arme à gauche, un de ses premiers films, donc à un moment où il est peut-être moins affirmé comme styliste, j'ai un peu peur, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant à deux endroits.
Est-ce que avant de se lancer dans la critique, on pourrait rappeler exactement de quoi parle le film, en fait, peut-être un petit résumé?
Alors oui. En même temps, je vais essayer de rester un peu cryptique parce qu'il faut pas trop en dire. C'est bien. Moi, tu vois, j'ai été surpris par ma découverte. C'est bien peut-être de pas trop en savoir. On est en Jamaïque, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien la Jamaïque et donc un
biopic de Bob Marley.
Non.
Autre émission.
One Love, One Boat. Et je dis One Boat parce que nous allons suivre un homme qui a été chargé d'effectuer une certaine mission sur un navire et une veuve bien embêtée parce qu'elle a de grosses dettes. Elle retourne voir cet armateur, hein, ce similaire armateur qui est joué par Lino Ventura pour lui dire « Le bateau a disparu, aidez-moi ». Et tout ce petit monde va se retrouver embarqué dans un récit, on va dire, autour d'une idée de trafic d'armes. Sauf qu'on n'est pas là pour faire de la grande aventure ou un gros film d'action, et pour cause, on est en 65, on va petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, se resserrer vers un film de plus en plus noir, de plus en plus radical, de plus en plus sec, qui se dirige vers une confrontation en forme de duel. Et je suis étonné de à quel point Claude Sautet épouse bien, mais parce que je connaissais pas les débuts de sa carrière, hein, du tout, à quel point le cinéma de Claude Sautet se marie bien avec cette atmosphère-là, à quel point lui épouse totalement le genre, totalement toutes ces fourches codines. Tu sais, c'est un film qui claque comme ces vieilles détonations de flingue, quoi. C'est très sec, très propre. C'est mis en scène vraiment au cordeau. On est en 65, donc on n'est pas à la fin de la carrière de Ventura, hein, du tout. Il a encore un. C'est pas un physique de papy qui a fait de la résistance. C'est encore un taureau, quoi. Et vraiment, il a un corps qui est assez passionnant, qui est intéressant, qui entraîne la caméra véritablement. Et puis enfin, moi, il y a un autre truc qui m'a énormément intéressé dans le film, alors qu'on ne retrouve pas que dans ce film-là, mais ça, c'est vachement intéressant. On est à l'époque où le cinéma français a quand même une fascination absolue pour les États-Unis, où la culture populaire française, elle est quand même beaucoup sous influence américaine, et ça va durer un certain temps. Il y a des auteurs comme Tavernier, justement, qu'on mentionnait, qui vont adapter des auteurs comme Jim Thompson, par exemple. L'imaginaire français, à l'époque, il n'est pas du tout découplé de l'imaginaire américain, mais sauf qu'on est en 65, on tourne quand même pour l'essentiel à peu près tout en studio, et donc L'Arme à gauche, bah, c'est un film qui se passe en Jamaïque, mais qui est évidemment pas tourné en Jamaïque, par des Français qui adaptent via la série noire un auteur de pas très loin du pulp, hein, américain. Et donc, on est vraiment dans une œuvre qui est, j'ai envie de dire, hors sol, hors catégorie, qui est un pur fantasme de cinéma. Il n'y a pas de réalité là-dedans. Vous n'êtes pas au contact de la vraie Jamaïque, vous n'êtes pas au contact d'une réalité sociale très précise. Vous êtes dans un fantasme de divertissement américain opéré par le cinéma français. Et donc, c'est un territoire qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de films comme ça, il n'y a plus de films avec ces atmosphères-là. Et vraiment, ça en fait un truc très, très, très original, je trouve.
Sophie, c'est pas ton genre de beauté, toi, non plus, a priori.
Non, mais j'ai beaucoup aimé le film. Il faut savoir que bah, je suis assez peu familière du cinéma de Claude Sautet parce que j'ai des lacunes dans le cinéma français, de manière générale, en tout cas dans le cinéma de cette période-là. Cependant, j'avais eu l'occasion il y a quelques années de voir Une histoire simple de Claude Sautet, qui est un film qui a été tourné au début des années 70 et qui parle très frontalement de la question de l'avortement, donc qui est un sujet encore aujourd'hui de grande actualité, et non pas juste de l'avortement de manière très dramatique comme ça avait pu être montré comme certaines représentations, même un peu récentes, hein, d'une très jeune femme qui a fait une erreur ou qui est dans une situation impossible. Là, ça représente vraiment ce que c'est que une femme qui tombe enceinte d'un homme qu'elle aime mais avec qui elle ne souhaite plus être en couple, et qui donc se pose la question d'un avortement pour la question de la qualité de vie d'elle-même et de son futur enfant. Donc c'est vraiment un avortement de choix. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, mon Dieu, c'est quelqu'un qui sait faire incarner des personnages, les inscrire dans une réalité tangible et raconter quelque chose de très important à la société. Là, quand je découvre L'Arme à gauche, il y a quelque chose de, comme tu l'as dit, Simon, c'est du pur cinéma. Je pense pas que ça ait un propos particulièrement politique. Par contre, j'y retrouve cette caractérisation de personnages extrêmement forte, extrêmement belle d'une certaine manière, et notamment quand, c'était une grande réflexion qu'on avait avec Alexis, le personnage de Nino Ventura, il est très particulier dans le cinéma de cette époque, que ce soit dans le cinéma américain ou dans le cinéma français, européen, c'est une masculinité très particulière, Nino Ventura, particulièrement dans ce film, parce que c'est quelqu'un qui représente une certaine force, hein, c'est quelqu'un qui est capable de se battre à main nue, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un flingue et de tirer sur quelqu'un. On est vraiment sur à la fois une beauté et une force un peu néo-noire, hein. On est sur quelqu'un d'à la fois extrêmement classe et pourtant qui a une virilité physique très imposante. Et pourtant, il n'a aucune forme de machisme, aucune forme d'érotisation à excès de l'héroïne qui pourrait l'être. Il n'a aucune forme de violence gratuite. Et ça en fait un personnage extrêmement étrange en termes d'incarnation pour l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, par exemple.
Ouais, et puis en plus, il faut préciser que Claude Sautet, quand même, il n'appartient pas, stylistiquement parlant, à la Nouvelle Vague. Comme eux, il a souffert, non pas en tant que critique, mais en tant que créateur ou futur créateur, il a souffert de la sclérose qui était en train de gagner le cinéma français à l'époque, qui était une sclérose artistique et surtout économique. C'est le cinéma dit péjorativement de la qualité française, dans lequel il y a, attention, énormément de chefs-d'œuvre. Hein, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge dessus comme l'ont fait les jeunes Turcs du cinéma à l'époque, il ne faut pas être aussi radical, mais ça reste quand même un cinéma de vieux briscards. C'est le cinéma des Autant Lara, des Marcel Carné, des Christian Jacques, qui sont là depuis super longtemps et qui, eux, pour le coup, ont mis en scène des acteurs qui sont des parangons de virilité. On fait difficilement plus macho que le jeune Jean Gabin qui roule des mécaniques et qui tombe les meufs en un claquement de doigts, qui est un vrai séducteur, qui lui aussi, attention, hein, se bagarre, il a une force virile. Lino Ventura, lui, il est révélé, entre autres, dans un second rôle dans Touchez pas au Grisby de Jacques Becker. Jacques Becker, cinéaste assez avant-gardiste, qui d'ailleurs sera considéré par Truffaut comme le cinéaste français qui représente le mieux ce qu'est un auteur, puisque la politique des auteurs, le texte de Truffaut, a pour exemple un film de Becker. Becker qui réalisera aussi Casque d'or avec Simone Signoret, qui est un personnage, pareil, féminin, beaucoup plus complexe que l'accoutumée. Et donc, bah, Ventura, quand il tourne pour Sauter, c'est un acteur qui appartient pas tout à fait à la génération de Gabin et consorts, mis en scène par un cinéaste qui appartient pas non plus à la génération de Marcel Carné. Donc il se passe quelque chose à cette époque-là dans le cinéma français. A fortiori, on est en 65, ça fait 5 ans que la nouvelle vague elle a débarqué, donc le cinéma français, il est là maintenant en train de changer de manière définitive, et le film imprime ce changement-là, quand bien même ça reste une série B d'action, avec un propos de film d'action, un bateau qui a disparu, faut trouver le bateau, oh, il y a des méchants avec des guns, bon, bah, on va se battre, c'est très codifié. Mais de fait, on a ce personnage féminin qui est loin d'être une cruche, et ce personnage masculin qui incarne une force tranquille, quoi.
Parce que pareil, bah, j'ai parlé de Lino Ventura, qui est un vrai héros, hein, pour le coup. C'est un peu un... J'ai envie de dire, il est... Pour moi, Ventura, il a ce côté un peu sombre du film noir. Pour moi, il a un peu un côté Bogart dans cette manière très... En fait, on ne lui connaît aucune connexion avec le monde extérieur, ou presque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Il est juste là, pour une raison X ou Y. Ici, c'est juste parce qu'il a été commandité. Et il se retrouve avec cette femme, qui donc pourrait être... en face de lui, l'incarnation d'une femme fatale. Et ça ne l'est pas. Il y a une phrase qui la résume assez bien, c'est que donc il y a toute une histoire de bateau, pas bateau, qui est remplie d'armes, il y a des soucis de marée, etc. Et elle tente de tromper les pirates, on va dire, de cette manière-là. Elle va rejoindre le personnage de Ventura et on la sent un peu éméchée, mais c'est juste que quand on la voit arriver, vraiment, t'as l'impression qu'elle va gerber sur la caméra. Enfin, tu vois, elle est genre... Bref, vous avez compris l'idée grâce à ma magnifique imitation sonore. Magnifique. Et en fait, elle va dire « Purée, je tiens quand même vachement bien l'alcool, j'ai dû en jeter pas mal par-dessus bord ». Mais j'ai quand même dû en boire quelques-uns. Et tu sens qu'en fait, elle avait tout fait, tout calculé. Ça nous est montré hors champ. Mais ce qu'on garde d'elle, ce qu'on choisit de montrer à l'écran, c'est qu'elle était prête, malgré tout, à risquer sa peau en trompant les gens qui la séquestrent. Et ça, je trouve que c'est assez beau d'éviter la scène de séduction, certainement, qui aurait été très maladroitement filmée, de elle qui se frotte à eux, qui tente de les séduire de manière un peu bébête, pour garder uniquement le « j'ai échoué, mais j'ai échoué avec panache ». Et ça, je trouve ça super bien en termes d'écriture. Et pareil, toute la relation entre, normalement, le héros du film noir et la jolie nana, parce que généralement, c'est comme ça qu'elles sont caractérisées, mais en fait, non. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'héroïne, mais elle arrive à instaurer une sorte de respect, de dignité, que je trouve super intéressante dans le film.
Arthur.
Moi qui connaissais plutôt la carrière de Sauter des années 70, c'est effectivement une découverte qui est assez intéressante. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment accroché. Alors effectivement, l'écriture des personnages, et notamment tout ce que vient de raconter Sophie, évidemment, mais il y a aussi comment il joue des codes, et j'étais assez surpris de deux choses, la lenteur et la tension qui en découle. Alors, j'ai cru comprendre que le tournage a été un peu chaotique, que le tournage dans le sud de l'Espagne a eu moult galères, du matériel qui a été détruit par des tempêtes, des techniciens vraiment blessés, et que du coup, toutes les scènes à l'intérieur du bateau ont été... fait pas loin de Paris, au studio d'Evernay, je crois. Et je crois que ça s'est pas très bien passé, du coup, et qu'il y avait vraiment beaucoup de tension. Et je trouve que ça se ressent. Toutes les scènes à l'intérieur de la coque du bateau, vraiment, tu es tendu, alors même qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment décontenancé, et dans le bon sens du terme, c'est que je trouve qu'il y a une vraie lenteur, un vrai espace au rien, à des moments, à juste un regard, à juste... la présence de personnes devant la caméra. Et de ça, il réussit à en découler de la pression... En détournant les clichés, ça, je trouve ça assez fort, et j'en tiens pour preuve une scène qui vraiment, et ça m'a vraiment, vraiment surpris, surtout pour l'époque, parce que, bon, la lenteur, la tension, on connaît les films du genre, sauf que cette lenteur, elle va même dériver à un moment où Lino Ventura doit plonger, et cette scène, du coup, comme le reste du film, elle est longue.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et elle est longue.
Et elle est très tendue.
Et tu te dis, mais comment il va faire? Et c'est vraiment là où je crois que le film m'accroche le plus, c'est parce que effectivement, donc, comme on l'a dit, c'est très riche, etc. Mais c'est là où je me dis, waouh, ok, j'ai l'impression qu'il m'a un peu construit tout ce rythme, tout ce tempo pour cette scène. Et je trouve que c'est vraiment, c'est pas un petit tour de passe-passe. Là, je trouve que tout prend sens. Et je trouve ça vraiment très fort.
Mais en plus, la mise en scène de Claude Sautet, c'est quand même une mise en scène assez, assez directe, qui pourrait presque donner l'impression qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est un peu déstabilisant. Et moi, ça m'avait fait ça pas mal avec César et Rosalie que j'avais vu pendant mes études de cinéma et que j'avais vraiment détesté. Il faudrait que je revoie parce que je pense que je suis passé à côté. Mais ce qui m'a frappé sur l'arme à gauche, c'est de me dire, en fait, ouais, comme le disait très bien Simon, c'est découpé au cordeau. C'est-à-dire que tu sens que le gars, il a des idées de plan qui sont simples, mais qui sont parfaitement exécutées, parfaitement pensées, qui s'agencent magnifiquement bien au montage. Donc tout est très naturel, très évident, et sur une scène comme cette fameuse scène en apnée qui dure effectivement longtemps, pour expliquer hein, très rapidement, mais l'ironie dramatique dans cette séquence est que Ventura doit parcourir une très longue distance en apnée, il faut obligatoirement qu'il remonte prendre de l'air régulièrement, mais il y a un sniper. Donc à chaque fois qu'il remonte prendre de l'air pour sauver sa peau, il risque de se faire buter. Donc c'est quand même déjà une situation très bien troussée en termes d'écriture, parce qu'on a une double tension, le personnage ne peut de toute façon pas échapper au danger, et bah, la mise en scène de Sautet, elle est extrêmement direct. On fait des plans sous l'eau quand il faut les faire, on fait des plans à l'extérieur quand il faut les faire, mais il y a une espèce d'alchimie au montage qui fait que aucun plan ne dure trop longtemps, aucun plan ne n'intervient au mauvais moment. Il y a une espèce d'efficacité qui, de prime abord, peut passer un peu pour une sorte de je m'en foutisme. De oui, bon, ouais, c'est bon, il a fait des plans comme ça un peu arbitraires, les premiers plans qui lui sont passés par la tête. Et en fait, plus tu repenses à la séquence derrière et plus tu te rends compte que non, il y a une vraie maîtrise, il y a un vrai artisanat, mais c'est pas une mise en scène qui s'exhibe. Pas une mise en scène qui est là pour faire des grands tours de force. Au contraire, une mise en scène qui est vraiment là pour soutenir le scénario et l'accompagner là où il va. Et ce sera le cas, je pense, de à peu près tous les films de Claude Sautet.
Le film est très proche de son action hein, tout le temps.
C'est
hein,
ça.
Il va toujours savoir doser sa force. On parle souvent de valeur de plan, quoi que ce soit, quand on parle, ou de découpage, quand on parle d'une scène d'action. Et là, j'ai l'impression que le film ne va jamais étaler des tours de force visuels, mais sera toujours parfaitement cadré pour faire ressentir, en tout cas, la parfaite dose de danger, ou d'action, ou de violence, ou de force. Et ça, en fait, j'ai l'impression que c'est presque un savoir-faire qui se perd un peu, particulièrement dans un cinéma de divertissement, et je pense notamment à tous les blockbusters type Avengers ou autres, où on n'est plus capable de filmer un coup. On n'est plus capable.
Bah, de le faire sentir, surtout, quoi.
De le faire sentir. Là, il y a quand même genre juste 5 personnes sur un bateau, pour résumer, et chaque coup fait mal. Chaque coup, on sent la notion de danger, et ça passe par la mise en scène. Ça passe pas que par l'écriture, parce que si l'écriture du film est à la fois très simple et très soutenue, très rythmée, s'il n'y avait pas du tout ces effets de mise en scène, le film serait chiant.
Et puis il y a un petit truc aussi, c'est que donc on est sur ce cinéma en noir et blanc qui exige une certaine rigueur quant à l'éclairage et puis à la composition du plan. Et ça amène quand même, alors bien sûr il ne fut pas le seul à le faire, hein, mais c'est toujours impressionnant de voir quand c'est bien exécuté comme ici. Ça amène Sautet à mettre plusieurs plans à l'intérieur de son plan. C'est effectivement quand des personnages vont changer l'attitude physique l'un envers l'autre, s'adresser un regard et comme ça accompagner l'action. En fait, aujourd'hui, bien souvent, on ferait un plan par micro-action.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, je veux dire, je dis une situation au pif. Un personnage tend un verre à l'autre, t'as un plan pour le verre, t'as un plan pour la réaction, un plan pour l'échange, on ferait ça en 3-4 plans. Tandis que là, il arrive, parce que les personnages sont merveilleusement bien placés dans le plan, à tout faire dans la continuité, sans que t'aies l'impression que ce soit lent, que ce soit fixe ou que ce soit inutile. Et vraiment, c'est une forme d'économie de moyens et de méthode qui, toi, te garde spectateur extrêmement concentré, parce que si le plan ne change pas, tu te concentres sur ce qu'il y a, et plus ça va, plus tu te concentres, plus ta concentration monte. Et donc, tu arrives à avoir un niveau d'acuité, d'attention aux attitudes des personnages entre eux, qui, une fois que tu es sur le bateau, que tu es à l'intérieur de la coque et que ça ne peut se terminer que par une confrontation létale, te met un peu les nerfs en pelote.
Peut-être pour sortir du film et revenir sur Sautet, quel est l'héritage de Sautet ? Quelle est la voie, le sillon qu'il trace dans le cinéma français jusqu'à sa disparition en 1995, Simon ?
C'est presque un héritage, moi j'ai l'impression aujourd'hui, de témoignage. C'est-à-dire que Sautet, il s'est intéressé à des groupes sociaux, à des types de personnages qui n'existent plus tout à fait aujourd'hui. En gros, la bourgeoisie française, comme on peut la voir dans César et Rosalie, une certaine bourgeoisie française, elle n'est plus tout à fait la même. Elle n'existe plus de la même façon. Vraiment, elle n'a plus les mêmes habitudes, elle ne fonctionne pas de la même manière. Le monde, tant aussi bien le monde, je dirais, un peu interlope, des gens qui sont un peu de loin, de près, complètement dans la délinquance, et ceux qui les traquent, les surveillent, les flics, quoi. Dans Max et les Ferrailleurs, par exemple, bah ça aussi, c'est un monde qui a totalement changé. Et en fait, moi, j'ai l'impression que Sauté, c'est quelqu'un qui a, après que ça me touche ou pas, ça dépend des films, parce qu'encore une fois, il y en a que j'aime beaucoup. Sauté, c'est quelqu'un qui a réussi, j'ai presque l'impression, à enregistrer une espèce de geste rituel qui est sur le point de disparaître, à chaque fois. Tu vois, même Nelly et Monsieur Arnaud, avec l'immense Michel Serrault, te racontent aussi une forme de solitude, de vieillesse et de bourgeoisie qui semble littéralement immortalisée, mais qui est aussi en train de disparaître à ce moment-là. Et vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Sauté filme quelque chose à partir de César et Rosalie, il ne fait que filmer des icebergs en train de fondre. Je ne sais pas si je suis clair ou pas, mais tu vois, j'ai à chaque fois l'impression de voir des continents disparus un petit peu. Même, tu vois, lui qui a beaucoup filmé les repas et aussi les restaurants.
J'avais un prof qui appelait ça le cinéma du passe-moi le sel.
Mais
pour
oui,
lui,
mais
pour lui c'était amélioratif.
Mais c'est pour ça que je te disais, c'est le cinéma de la sauce gribiche, tu vois. Et en même temps, si tu veux, tu regardes ça. C'est pourtant. Il y a une tradition du manger, une tradition de la table française qui ne date pas de Claude Sauté, hein, qui est quand même un peu antérieure. Et ben, tu regardes les repas chez Sauté. Ça n'a plus rien à voir avec les repas aujourd'hui. Tu regardes les brasseries chez Sauté, ça a disparu. Pour moi, Sauté, voilà, c'est peut-être les dernières lueurs, le témoignage des 30 Glorieuses, de la fin des 30 Glorieuses. C'est ça. C'est le cinéaste de la fin des 30 Glorieuses.
Un dernier tour de table. Pourquoi faut-il retourner voir L'Arme à gauche au cinéma maintenant, puisque c'est ressorti en salle depuis mercredi dernier? Une bonne raison en quelques mots à peine, Alexis.
Bah écoute, parce que ce genre de production, des films de purs artisans réalisés par des cinéastes connus, mais qui sont pas connus pour ce film-là, bah c'est des films qui sont oubliés en fait. C'est des films qui sont laissés de côté, qu'on ne voit plus, qui de temps en temps sont rediffusés un dimanche après-midi sur Arte ou une chaîne obscure de CanalSat et qui seront vus par 3 Pégus. Là, les 3 Pégus peuvent aller le voir en salle, en version restaurée, et c'est là que le film a commencé sa carrière. Puis en plus, c'est un film qui a été quand même un échec, et ce serait bien de pouvoir lui redonner ne serait-ce qu'un tout petit peu de la noblesse qu'il mérite, parce que franchement, en termes de série B d'action et d'aventure, bah moi je trouve que ça tient encore très très bien la route aujourd'hui.
Simon,
c'était quoi la question?
Pourquoi tu me fais pas tout de suite un chèque de 15 000 euros?
Je sais pas combien il faut mettre de zéro, du coup si je te fais juste 15, tu vas faire la gueule.
Okay. Une bonne raison d'aller voir L'Arme à gauche au cinéma maintenant.
Ah, bah parce que à l'époque où tout est en train de passer à droite, c'est bien le seul truc qui passera à gauche dans votre semaine.
Et
donc, voilà.
Et vient de me chourer ma vanne de fin. Allez,
ah merde.
Sophie.
One brain.
Bah, en fait, je pense que ça a un public beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser, parce que, ouais, par exemple, moi, c'est pas du tout mon genre de cinéma de base. Je suis pas familière du cinéma d'action. J'ai même vu assez peu de films avec Lino Ventura, et pourtant, je crois que ça a un charme à la fois assez fou en termes d'écriture et une mise en scène qu'on n'a plus complètement l'habitude de voir. C'est un charme un peu désuet, et c'est accompagné par un scénario tellement accrocheur en termes de pseudo-thriller noir que je trouve que tout le monde en fait peut y trouver quelque chose, que ce soit pour le jeu des acteurs, la mise en scène. Franchement, je trouve que c'est un film très accessible.
Arthur?
Moi, ma raison, ça va être un petit fun fact que j'ai pas eu le temps de placer mais que je trouve très cool. C'est pour la musique. Parce que la musique, elle est signée Eddie Barclay, et c'est rigolo parce que pour moi, Barclay, c'était juste un des plus grands labels de l'histoire de la musique française. Mais c'est aussi un compositeur qui a fait, que je crois, 5 ou 6 BO, dont celle-ci, dont c'est l'une des dernières, avant qu'il se lance vraiment dans la production à 100%.
Et,
voilà.
Et la BO est co-signée par Michel Colombier, grand arrangeur de l'histoire de la musique, qui a notamment fait les arrangements du Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
Pas mal.
Et qui a fait ma bande originale préférée du cinéma français des années 70,
la
pour un film qui est pas dingue.
Très
non
niche.
Pas La Soupe aux Choux, parce que vraiment la bande originale de La Soupe aux Choux, c'est un enfer.
Merveilleuse synthé.
Voilà, bref. Non, c'est la BO de L'Alpagueur de Philippe Labro, qui est vraiment pas un film dingue, hein. Si vous le voyez, ne vous attendez pas à grand chose, c'est pas terrible, mais le thème principal est une dinguerie absolue. Vraiment, Michel Colombier, très grand compositeur.
Est-ce que tu peux nous le siffler?
Néo-Colombier.
Ça fait un truc du style. Ta-na-na-na-na-na. Voilà, je chante très mal. Donc, voilà.
Wow. Tu siffles pas du tout. Hein.
Ah, mais je siffle encore plus mal que je chante. Donc, bon,
C'était un Aya Nakamura, non?
Non.
Voilà, blague de poule.
L'arme à gauche de Claude Sautet avec Lino Ventura, Sylvia Cosina qui est ressortie donc en salle. Foncez le voir dans votre cinéma de quartier. Vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt arme à gauche ou vote à droite.
Oui, effectivement, il t'a volé ta
blague. Oui, il m'a volé complètement. Ouais. Et la carte blanche cette semaine, c'est le film tchèque Alice de Jan Svankmajer. C'est comme ça qu'on dit ?
Svankmajer.
Oui, ouais, ça va. Svankmajer, et c'est donc. Qu'est-ce que c'est que ce film de 1988, Arthur ?
Ouais, je voulais vous en parler parce qu'il ressort en salle via Malavida et c'est un film qui est important pour moi. Si vous avez écouté nos épisodes de cet été, vous vous souvenez peut-être que je vous racontais que je n'ai pas eu une formation à la fac de cours de cinéma, blablabla, que moi, ma cinéphilie est surtout passée par ma mère. S'il y a un film que je dois retenir de mon parcours universitaire un peu chaotique, c'est mon cours de deuxième année d'anglais quand j'étais à Paris 4, la Sorbonne, où j'ai eu une prof qui m'a fait un semestre entier sur Alice au Pays des Merveilles. Et plutôt que de nous parler du film de Walt Disney, plutôt que de nous parler de Tim Burton, elle a voulu nous montrer ce film tchèque de 88 qui est une vraie folie visuelle en tout point et qui m'a beaucoup marqué et que j'ai revu du coup pour préparer l'épisode et qui est en fait absolument exceptionnel, même s'il est très difficile d'accès, je dois vous le dire. Juste pour comprendre un peu, Jan Svankmajer, c'est donc un cinéaste qui est encore en vie alors qu'il a 89 ans quand même, c'est pas rien, qui a commencé dans les années 70. Il a été rattaché, et ça va être important, vous allez comprendre pourquoi, au mouvement surréaliste. C'est-à-dire que quand on parle de Quentin Dupieux surréaliste à côté, c'est vraiment de la gnognotte. Hein. Quand on parle de Svankmajer, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. Et qui a commencé au départ par la marionnette. Il faut savoir que c'est un art un peu traditionnel en Tchécoslovaquie à l'époque. Et donc lui, il va essayer d'aborder le cinéma par mélanger donc, l'animation et le live-action sur le même plan, le stop-motion, à jouer sur des mouvements de caméra très brusques. Et donc quand en 88, il décide d'adapter Alice au Pays des Merveilles, il se pose la question de 1. Comment il le fait, donc la forme, évidemment le surréalisme, et ce qu'il va raconter. Et donc, on est en 88, la période est pas dingue en Europe de l'Est, vraiment pas ouf, et je pense que ce que se dit Svankmajer, et c'est là où je trouve que le film est très riche et très fort en analyse, c'est qu'en fait, je pense que les enfants, enfin, dans la tête de Svankmajer, il se joue quelque chose de l'ordre, les enfants ne peuvent pas rêver en Europe de l'Est. En Tchécoslovaquie, actuellement, on ne peut pas rêver. Donc, ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice au Pays des Cauchemars. On ne peut pas rêver d'une forêt magnifique avec une chenille qui fume une chicha. Là, on est plutôt sur des ruines, des peluches, des animaux empaillés qui prennent vie, qui sont absolument terrifiants. Un lapin qui bouffe à l'intérieur de son propre corps des espèces de morceaux de paille. Des scènes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, dont la seule activité d'Alice avant qu'elle s'endorme et après qu'elle s'en rendorme, après qu'elle se soit réveillée, pardon, c'est de jeter des petits cailloux dans sa tasse de thé. L'ennui profond de cette enfance de l'Europe de l'Est, qu'il décrit lui-même un peu avec une forme de dégoût. On sent que lui-même, il est terrifié de ce qu'il raconte. C'est absolument fou. Je pourrais même pas vous décrire la scène de la chenille, qui est quand même une scène de culte, que ce soit dans le Disney, que ce soit dans le bouquin, que ce soit même
que ce soit au mariage de ma cousine.
Burton, mariage de ta cousine, exactement. Là, ce sont des chaussettes qui prennent vie et qui vont creuser le plancher de la chambre. Et à un moment, toutes les chaussettes vont se réunir et ça va devenir la chenille. Tout est absolument terrifiant en tout point. C'est vraiment un mélange, j'ai dit, de peluches et d'animaux empaillés. Quand on a la reine de cœur et toutes les cartes, bah là, c'est clairement des cartes de tarot qui prennent vie en stop motion. Alice, quand elle réptécie, bah elle devient une poupée, mais une vraie poupée, hein, dans le sens littéral du terme, qui est animée en stop motion. Enfin, voilà, c'est un mélange de tous les types d'animation en tout point, en permanence, et qui en même temps va chercher dans le surréalisme, pas sur le propos, mais aussi sur juste le rythme. Enfin, il y a des scènes que vous allez voir 5 fois d'affilée, juste parce que bah, la vie d'un gosse en Tchécoslovaquie en 88, c'est visiblement très chiant et très redondant. Il faut quand même noter que c'est un film qui a eu le grand prix du long métrage d'animation au Festival d'Annecy en 89. Donc, c'est quand même considéré comme étant un film pilier et important de l'animation et qui n'est pas assez connu. Moi, je reconnais que je ne le connaissais pas avant que ma prof d'anglais m'en parle quand j'avais 20 ans. Le fait est que 10 ans plus tard, il me hante encore et de le revoir là, je sais qu'il me hantera encore pendant 10 ans. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ce Alice de Jan Svankmajer en salle, je ne peux que vous le conseiller.
Et c'est en grande partie le film qui a inspiré Thailand de Terry Gilliam.
Mais de toute façon, c'est Svankmajer, c'est un cinéaste qui a beaucoup inspiré et Tim Burton et Terry Gilliam. Mais grosso modo.
Comme Thailand, c'est une réadaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Pareil, grosse machine à cauchemar Thailand. Hein. Voilà.
Eh bien, si vous voulez passer un délicieux moment,
ah,
vous
vraiment délicieux, hein.
Vous faire une soirée Alice de Jan Svankmajer et tout après Planète Sauvage. Et vraiment, vous ne dormirez pas de la nuit. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Pour nos petites Josiane chéries d'amour, demain, quel est
qu'on
le programme
aime et qu'on adore.
Qu'on adore, les, on les adore, nos petites Josiane, on vous fait
alors,
des bisous.
Demain, pas si les Josiane nous écoutent le samedi.
Arrêtez. Non, on fait plus cette blague.
Il suffit.
Mais je pense que même les Josiane n'écoutent pas jusqu'au bout, donc en fait, si ça se trouve, on parle juste pour nous.
Je checkerai les statistiques, mais il y a moyen.
Dire, on fait cette blague juste pour nous depuis des mois.
Alors, c'est quoi pour nos petites Josiane, demain mercredi? Qu'est-ce qu'elles vont écouter?
Ah, c'est mon émission! C'est super! Alors, ça s'appelle D'après une histoire fausse, et c'est une émission où je vais vous parler pour la première fois de Stephen King, et j'y reviendrai au cours de différents autres numéros dans les semaines et mois à venir, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Tout simplement, je vais me poser la question, pourquoi, comment ça se fait que l'écrasante majorité des adaptations de Stephen King, elles sont toutes pourries? Alors, vous me direz, la plupart des films, ils sont pas réussis. Et puis, comme Stephen King est une énorme machine à pognon, il y a plein d'adaptations qui sont mises en marche pour des raisons très mercantiles. Mais quand bien même, ça ne suffit pas à expliquer l'incroyable proportion de déchets. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a un piège niché dans la logique littéraire de Stephen King qui déjoue les attentes du cinéma.
Tu vas pas dire du mal de...
La nuit déchirée.
La nuit déchirée.
Non, je vais dire du mal de la nuit des rideaux. Je sais pas, la nuit des ridas. Non.
De ta soirée de vendredi dernier.
Il est tard.
Il est tard. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner en tout cas gratuitement sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de podcast. On peut peut-être un petit rappel des tarifs si vous voulez nous soutenir. Hein. Il y a deux formules d'abonnement.
C'est 2,40€ TTC par mois pour la formule soupe aux choux qui ne supprime que les pubs. Enfin, qui ne vous offre que cet avantage-là. Et puis, pour 6€ TTC par mois, vous avez la formule Josiane 45 ans. Je vous laisse compléter le titre du film qui, du coup, vous
permet... Secrétaire à podcaster.
Exactement. Qui vous permet d'accéder à certains épisodes, comme celui que vous écoutez maintenant en accès anticipé, et surtout à débloquer du contenu exclusif.
Voilà, il y a plein d'épisodes nouveaux bonus. Vous en avez découvert trois. Celui de Simon, celui de Sophie et celui d'Alexis. Bientôt les nôtres, Arthur.
Ouais, moi, le mien, je pense qu'il débarquera sans doute fin mars en premier.
Ouais.
Je peux déjà même m'avancer si ça vous intéresse.
Allez,
L'émission que je vous présenterai s'appellera Le Mal-Aimé, qui reviendra sur des films détestés.
Je suis le mal-aimé.
C'est exactement la morceau que je veux en générique. Qui revient sur
alors, des films. Alors qu'on discute droit d'auteur, par contre, parce que si tu veux ce morceau.
Moi, je chante comme ça marche.
Très bien.
Et Simon, ça va faire l'accompagnement au cas où.
Et dont l'idée est de réhabiliter des films détestés ou dans des franchises ou dans la filmographie. Et pour le premier volet, je vais m'attaquer à un film pas assez commenté alors qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à dire, à savoir Alien 4.
Et pour ce qui me concerne, eh bien moi, mon émission s'appellera dans toute sobriété chez Josiane, puisque
chez Jojo,
puisque je me propose de recevoir dans mon antre des gens qui gravitent autour du cinéma, qui parfois on fait un peu de cinéma, mais pas qui dont c'est pas l'emploi à temps plein et qui vont venir nous parler de leur métier, de leur passion, de leur rapport au cinéma, de leurs images marquantes, tout ça dans une ambiance très chaloupé, feutré, on boira des tisanes brûlantes et on rigolera comme ça sur des méridiennes rouges velours. Chez Josiane, quoi, simple, décontracte. Bref, on a hâte que vous écoutiez ça. À très bientôt. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.